France Culture.
À voix nue, Ulysse Maness.
Georges Nivard, écrivain et slavisant.
Épisode 1, l'avant-Russie, naissance d'une quête. Georges Nivard, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes bien installé ?
J'ai l'impression que oui.
Bon, vous êtes professeur, écrivain, traducteur, spécialiste du monde russe, passeur des littératures de l'Est, et vous vous définissez avec ironie comme un nonagénaire bien dans sa peau. Merci de nous accueillir dans votre appartement de Saint-Germain-en-Laye. Dites-moi pour commencer, Georges Nivard, est-ce qu'on reste indemne de toute une vie en compagnie de la culture russe ?
Bon, c'est, vous voulez que je conclue ma vie, en quelque sorte. Comme nous sommes dans une période terrible, catastrophique pour la Russie, pour l'Ukraine et pour nous, je dirais que ça termine mal. Mon existence d'amoureux de la Russie, mon existence de russophile, disons, on ne peut pas rester le même russophile aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou bien quand j'ai commencé à découvrir cette langue à l'âge de 17 ans. C'est impossible. C'est une catastrophe dont je ne sais pas si on se remettra, moi en tout cas pas, vu mon âge. La France, l'Europe aura beaucoup de temps à mettre pour s'en remettre de cette catastrophe, et surtout la Russie. Je pense que dans 2-3 générations, elle aura honte.
Et vous, précisément, sur ce rapport à la Russie, toute une vie consacrée à la culture russe, est-ce que ça laisse des traces ?
La culture et la langue russe, je leur garde mon affection, bien entendu. Je me suis mis à l'ukrainien, c'est une manière de résister. Je traduis un grand poète ukrainien qui est mort au goulag, dans l'extrême Russie, sur la Kolyma, à l'extrême orient sibérien. Et ensuite, il était au camp de Perm 36, au pied de l'Oural. Bon, c'est ma manière de réagir.
Alors, rembobinons un petit peu. Vous êtes né en 1935 à Clermont-Ferrand. Qui étaient Jean Nivard et Gabriel Aubouy ?
Alors, mon père, Jean, il est clermontois. Ses ascendants sont à Sauvé-Sanges, près du Mont-Sancy, enfin on ne peut pas trouver plus auvergnat. Ma mère était montpelliéraine du Midi, elle connaissait l'italien, elle aimait bien l'italien, mais elle était mathématicienne, mon père était helléniste. Ils se sont rencontrés parce que l'éducation nationale, quoi, à l'époque on disait l'instruction publique, avait nommé ma mère à Clermont-Ferrand, avec deux autres jeunes femmes que j'ai connues bien toutes les deux et que je considérais un peu, quand j'étais enfant, comme des tantes maternelles. Mon père, sa mère n'était pas auvergnate en ce sens qu'elle était une famille juive d'Alsace, s'appelait Jeanne Weil. Alors ça a joué un rôle. Parce que, voyez-vous, je connais le Clermont sous l'occupation. Je connais le village de Randan, à 14 kilomètres de Vichy, où mes parents m'avaient laissé pendant, je crois, 2 ans. Et où j'ai vu arriver les Allemands une première fois quand ils ont envahi un grand morceau de la France. Se sont arrêtés à Vichy. Mais ils sont arrivés à Randan, je revois ça comme si c'était hier. Ils se sont retirés, c'était la création de la zone dite libre, et puis ils sont revenus. Et ils sont revenus, j'étais seul avec ma grand-mère maternelle, et puis une jeune femme, la bonne, qui était là et qui a crié « Madame, v'là les boches !» Et la colonne de chars s'est arrêtée juste devant la maison. J'ai d'abord cru que c'était à cause du cri de Vlalibov. Non, c'était pas ça.
Alors n'allons pas trop vite en besogne sur la guerre, on y reviendra, mais vous étiez fils de deux professeurs. Est-ce que vous aviez des frères et sœurs ?
Oui, j'avais un frère grand mathématicien qui est mort il y a 4 ans. Et j'ai une sœur, grande mathématicienne, ancienne présidente de l'Association des mathématiciens de France, qui est en vie. Voilà.
Alors autour de nous, il y a plein de tableaux dans votre appartement et une bibliothèque. Nous sommes face à un tableau de Clermont-Ferrand. Vous pouvez nous parler un peu de cette ville où vous avez grandi ? Des souvenirs que vous gardez ?
Je suis né dans un appartement, dans la maison qu'avait construite mon grand-père, architecte, Émile Niva, qui avait épousé Jeanne Veil, qui était la première agrégée de mathématiques en France. Ensuite, mes parents, pour avoir plus de place, ont loué Cour Sablon. Donc c'est l'appartement, le premier que je me rappelle, qui était magnifique, donnant sur un grand parc. C'était une autre vie, vous savez. Il y avait des vendeurs ambulants qui passaient en bas. Il y avait celui qui achetait les pots de lapin, pots de lapin, pots de lapin. Il passait, repassait. Il y avait celui, le matelassier, qui passait pour refaire les matelas, etc. Une vie qui ressemble, si vous voulez, qui semble, je sais pas moi, sortie de vraiment autrefois. Puis, il y a eu la guerre. Et ça, c'est inséparable pour moi de Clermont-Ferrand. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu un attentat, l'attentat de la Poterne. Les résistants ont jeté une grenade sur de la Poterne qui dominait le boulevard, sur les troupes allemandes qui passaient. Comme toujours, naturellement, il y a eu des représailles. C'est-à-dire, on a fusillé des gens pris au hasard. Je me rappelle ça parce que mon père avait tardé à rentrer, donc ma mère attendait. Et puis il y avait deux universités. L'université de Strasbourg était réfugiée dans les locaux de l'université de Clermont. Et donc la Gestapo a encerclé l'université et on choisissait les uns les autres à droite, à gauche, et ça signifiait on s'en va, on part, on ne sait pas où. Et là aussi, je me rappelle ma mère attendant. Mon père est arrivé très tard, très très tard. Et mon père, qui était un homme plutôt timide, là véritablement était hors de lui. Bon, ça s'est bien terminé. Aujourd'hui, c'est difficile de voir, mais la guerre a duré longtemps quand même. Et la joie de la victoire, la joie de la libération, la joie de mes parents, quand au village de Randan, il m'a emmené, on est allé scier tous les poteaux de la commandantour qui était installée dans le château. Et ma joie, parce que j'avais 10 ans, mais je ressentais tout ça. Il y avait eu aussi les rafles à Randan, les rafles à Clermont, mais à Randan, je me rappelle très bien, et on avait donné refuge à une jeune dame juive et sa petite fille qui fuyaient le nord. Bon, il y avait eu l'exode, c'est-à-dire la maison complètement envahie par des Français du nord qui passaient pour aller vers les Pyrénées. Ils ne savaient pas très bien le sens que ça avait, parce que les Allemands les ont tous rattrapés. Bon, là, je passe sur des détails, mais j'en ai des quantités, parce que c'est les premières impressions extravagantes de ma vie. Mais cette femme qui s'était réfugiée chez nous, on la mettait le dos à la fenêtre. On était au rez-de-chaussée. Parce que si elle voyait la fenêtre, elle mourait de peur. Il y a eu la rafle. Ma grand-mère avait déjà emmené la petite fille et elle y est passée.
Bien sûr. Si je vous parle d'escalier à vis, qu'est-ce que ça éveille chez vous ?
Bon, c'est ma découverte de la langue russe en rendant visite à un russe blanc qui s'était réfugié à Clermont, Georgi Nikitin, que j'aime beaucoup. Il est mort il y a très longtemps, sa femme, sa fille, tout le monde a disparu. Mais lui, il m'a d'ailleurs laissé des souvenirs qui sont assez naïfs, mais où il décrit la vie, les fêtes dans le Kouban, au nord du Caucase. Et finalement, on voit ces fêtes. Il vivait une vie heureuse, guerre civile, Dénikine. Le général Dénikine fait une levée massive de jeunes gens. Il n'est pas un volontaire. Il a été pris par les gens, les recruteurs de Dénikine. Bon, c'est la déroute. Il se retrouve à Istanbul. Il avait un maillot, une culotte, et c'est tout. Et même, il était pieds nus. Alors, il voit un cargo. Il se présente en disant « Je suis prêt à faire n'importe quoi ». Et on le prend comme chauffeur. Il enfourne le charbon dans la chaudière. Il arrive à Marseille. Comme la Grande Guerre avait été une hécatombe, on manquait d'hommes, de bras pour travailler. Chaque fois qu'il arrivait, un bâtiment d'Istanbul avec des réfugiés russes, il y avait des patrons qui venaient de loin, qui venaient de Haute-Savoie, qui venaient d'Auvergne et qui embauchaient. Alors il s'est retrouvé à Clermont-Ferrand, il a épousé une Auvergnate. Cette Auvergnate était la meilleure élève de ma grand-mère mathématicienne, à tel point que quand je montais l'escalier à vis, c'était au sixième étage d'une très vieille maison. Je n'imaginais pas que les maisons médiévales pouvaient être aussi hautes. Rue Grégoire de Tours, il y avait une grande armoire et elle est allée avec une échelle, elle a fait monter son mari, va chercher. C'était les copies corrigées par ma grand-mère. Voilà, une adoration. Et lui, il a commencé à m'apprendre le russe d'une façon très peu pédagogique.
Vous aviez quel âge à cette époque ?
16, 17 ans, quand j'allais chez lui.
Vous dites que c'est vos premières piqûres d'amour de la langue russe.
C'est-à-dire, il me disait, tu es encore un enfant. Pour la langue russe, on peut dire que tu es même un véritable bébé. Et par conséquent, on va prendre les contes, les récits pour enfants de Léon Tolstoï.
Mais c'est ça, ils sont déjà très compliqués pour...
Après, je me suis rendu compte que les récits pour enfants avaient la syntaxe la plus difficile, parce qu'elle est la plus éloignée de la syntaxe française ou latine. C'est une syntaxe par des grands raccourcis, où les mouvements sont indiqués par les prépositions, il n'y a pas de verbe, par exemple. Alors... J'aime beaucoup cela dans la langue russe, et je l'ai même pratiqué quand j'écris un peu le russe. Mais bon, il m'apprenait une syntaxe assez particulière, populaire, disons, et puis il avait l'accent du Midi. Il avait un accent à moitié ukrainien, au lieu de dire Gavalich, il disait Hovorik. Et plus tard, à la Sorbonne, je me suis rendu compte que si je ne me corrigeais pas, je ne passerai pas la grecque.
Oui, donc c'était une pédagogie maladroite et exigeante en même temps.
Je lui suis reconnaissant. J'ai écrit d'ailleurs en russe un texte, Le cadeau de Georgi Ivanovich. Voilà, c'est son cadeau, la langue.
Et alors, donc vous aviez 16 ans à cette époque-là, vous évoquez ces premières piqûres d'amour. Nous reviendrons ensuite plus précisément à votre apprentissage de la langue russe. Mais vos études supérieures, à 18 ans, vous arrivez à Paris, c'est cela ?
D'abord, monte à Paris.
Vous montez à Paris. Est-ce que vous étiez un jeune Rastignac en quête de la capitale ?
Non, c'est avec un ami qui est un bon compositeur, Jean-Bernard Mache, qui a passé la grecque des lettres classiques, qui est un compositeur reconnu, peut-être un peu plus connu d'ailleurs en Allemagne ou au Japon qu'en France. Et tous les deux, nous avons pris la décision, après notre hippocagne à Clermont-Ferrand, de monter, enfin de nous présenter à Louis-le-Grand. On nous prend à Louis-le-Grand et on a passé 2 ans à Louis-le-Grand.
Où est-ce que vous viviez ?
Alors là, je louais chez une demoiselle rue Beautreilly, dans une maison que j'ai découvert avait habité Baudelaire.
Ah oui.
Ce dont j'étais fier.
Oui, c'est une belle prédestination.
Et évidemment, avec des profs très, très importants, surtout en philo.
Oui, Jean Kélévitch.
Étienne Borne, qui était un catholique fervent, un excellent prof, tandis que celui de l'autre cagne, Maurice Savin, était fantasque. Il y avait la moitié de la classe qui ne l'écoutait pas. Et l'autre moitié, dont moi, qui était merveilleusement fasciné par Savin, qui écrivait des romans, des petits romans où il y avait des scènes érotiques, ce qui fait que quelquefois, les petits malins écrivaient au tableau, avant qu'il entre, une phrase de son roman.
En ces années-là, vous faites d'abord une licence de langue, puis vous êtes pris à l'École normale supérieure. Est-ce que vous passez le concours ?
Oui, je commence une licence de français, mais je la termine pas. Une licence d'anglais, mais je la termine. J'aimais beaucoup l'anglais. Au lycée, les Manuel Le Carpentier, Fialip étaient mes préférés. J'avais des voisines, des demoiselles Malafosse, qui habitaient en dessous, qui avaient encore des tas de livres. Elles étaient dans la Croix-Rouge française qui aidait les soldats américains en 1917-18. Et elles avaient des livres de la Croix-Rouge, donc Edgar Allan Poe, je l'ai lu dans leurs éditions militaires, on peut dire. L'anglais, j'aimais beaucoup. Shakespeare, Ben Jonson, les sonnets de Shakespeare. Dickens, bien sûr, en anglais. Mais finalement, c'est la rencontre avec Pierre Pascal qui m'a dévoyé.
C'est ça. Et là, vous étiez à l'École normale supérieure déjà.
Oui. Bon, l'École normale supérieure, j'y suis resté 2 années sur 5 où j'ai été étudiant, puisqu'on m'a donné une année supplémentaire. La première année, il faut bien se rendre compte, à l'époque, on avait des dortoirs. Donc j'étais dans un dortoir, comme dans un grand séminaire, ou petit séminaire, c'est-à-dire un couloir, des petites loges avec des planches, une petite porte en tissu noir pour se séparer des autres, c'est tout. Et puis des robinets d'eau chaude et d'eau froide à l'autre bout.
Mais c'était plutôt martial encore.
Alors c'est évidemment inimaginable aujourd'hui. Bon, ça ne m'a fait aucun mal, bien entendu. Et puis, on avait la turne qu'on partageait. On était 4. Alors, il y en a 2 qui sont là, qui sont encore des très grands amis. Il y en a un qui est déjà mort. Mais la turne a joué un rôle essentiel pour créer des amitiés à tout jamais.
C'était des années d'effervescence. Et puis, donc, vous évoquez Pierre Pascal, votre professeur, qui va créer le véritable éblouissement sur le russe et la vraie rencontre et la décision de vous y dédier pleinement. Ces années d'effervescence, c'est entre 56 et 60, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Vous passez l'agrégation de russe, en même temps vous faites vos premiers voyages à Oxford, puis à Moscou, on reviendra sur l'épisode Moscou évidemment.
D'abord à Moscou, ensuite à Oxford.
Donc, grâce à Pierre Pascal, avec, je vous cite, son éternel sourire de Joconde, rassurant et inquiétant à la fois, vous vivez votre conversion aux Russes.
Bon, Pierre Pascal, c'est un roman entier. Il m'a pris en amitié presque tout de suite, je peux dire. Je fais partie de ces quelques amitiés. Il y avait 2 ou 3 autres dont je pourrais citer les noms, en particulier Louis Martinez, qui venait de l'Algérie française. Et il m'invitait, il avait à Neuilly, dans la rue Général Cordonnier, un petit appartement, pas du tout un appartement cossu, avec sa femme Eugénie ou Génia, qui était une Roussakov, c'est-à-dire elle était la fille d'un révolutionnaire qui avait quitté la Russie en 1913 et qui avait emmené ses filles en France. Et puis en 1917, quand il a entendu la grande trompette de la Révolution qui sonnait, il est rentré. Et donc une de ses filles a été la compagne de Pierre Pascal. Et donc il y avait chez Pierre Pascal une espèce de ruche russe, parce qu'il y avait son épouse, et puis il y avait tous les membres de sa petite communauté de 1919-20, quand ils allaient en Crimée et qu'ils faisaient une communauté où on mettait tout en commun. Alors Pierre Pascal, sa connaissance du russe était très grande, mais enfin je peux la juger maintenant. Il y avait une chose particulière, c'est qu'il n'aimait pas Pouchkine. Il était très fervent catholique, et les aspects, comment dire, un peu érotiques, un peu sacrilèges du jeune Pouchkine, qui a écrit la Gabrieliade, ne lui plaisaient pas. Résultat, au programme, il ne nous a jamais fait de cours sur Pouchkine. Donc, celui qui est considéré comme notre tout, celui qui a tout donné à la langue et à la littérature russe, absent. Il n'y en avait pas. Il y avait Krylov, il y avait Leskov, c'est-à-dire le grand fabuliste Krylov, Leskov, qui a écrit Jean d'Église et qui a une langue, provinciale, extrêmement riche. Et puis, il y avait le dit du régiment d'Igor, c'est-à-dire cette grande épopée, poème épique, si vous voulez, du XIIe siècle, dont quand il a paru, quand on l'a redécouvert fin XVIIIe, eh bien, on a pensé que c'était un faux, à la manière des chants d'Ossian. Alors, je me rappelle ses cours, parce que il se moquait pendant les cours d'un autre slavisant qui était André Mazon, qui n'était pas partisan de l'authenticité du texte. Et puis il y avait au premier rang l'historien Victor-Louis Tapier, qui suivait tous les cours de Pascal, tout le temps, sur le vieux slave. Sa crinière blanche, là, qui était au premier rang, fait partie du décor, disons, des cours de Pierre Pascal.
Donc, dans cette période, ces années d'épanouissement intellectuel, académique, vous êtes appelé en Algérie, en qualité de capitaine de réserve. Est-ce que vous pourriez nous raconter ? Je crois que vous avez été très marqué par la guerre d'Algérie.
Non, je suis appelé en Algérie en qualité d'officier élève, parce que j'avais suivi l'instruction militaire obligatoire des grandes écoles, et en particulier de Normale Sup. Capitaine, je suis devenu bien après. Oui, bon, pour tout vous dire, je ne regrette pas mes 2 ans d'armée. Ça m'a fait voir beaucoup de gens, beaucoup de faces de ce qu'est une existence humaine, des bonnes, des mauvaises, des encore plus mauvaises. J'ai été blessé, je suis tombé dans une embuscade, et je ne me suis pas rendu compte que j'étais blessé. Parce qu'on est tellement excité, dans un état de second, d'ivresse. J'avais du sang dans le dos, parce que c'est au moment où je sautais dans le camion, et l'embuscade venait d'en haut à droite, et moi je sautais dans le fossé. En passant ma main dans mon dos, je dis « qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais vous savez, on tire, c'était la nuit, l'essentiel c'est de ne pas se tirer les uns sur les autres. Et puis finalement, l'embuscade est terminée, je vais voir mon lieutenant, et il me dit « mais tu es blessé ». Bon, alors je suis parti en hélicoptère, je me suis trouvé à l'hôpital de Philippeville, j'ai attendu l'opération par un chirurgien qui faisait son service militaire lui aussi. Seulement, avant moi, il y en avait un dont l'opération a duré 5 ou 6 heures. Donc, c'était long pour moi d'attendre. Et lui n'a pas survécu. Et puis ensuite, je me suis retrouvé à l'hôpital d'Alger, et puis sur l'aérodrome d'Alger. Et il me restait une mèche, comme on laissait à l'époque des mèches, vous voyez, à l'intérieur du ventre. Et l'infirmière, qui s'appelait qu'on appelait double maître, elle venait de Dien Bien Phu. Et elle avait opéré à Dien Bien Phu, assisté des chirurgiens. Et brusquement, elle me tire cette mèche qui faisait 3,50 m. J'ai poussé un hurlement, mais elle avait raison, c'était la seule chose à faire.
Vous étiez
sauvé. Oui. Ensuite, j'ai le Val-de-Grâce. Et le Val-de-Grâce, j'ai entendu des tirs dans la pièce d'à côté, c'était l'OAS, qui était venu essayer de liquider quelqu'un. Donc l'Algérie a joué un rôle essentiel. J'y suis retourné chercher des recrues musulmanes à Constantine. Et là, c'était la fin. On sentait, c'était vraiment la fin. Par exemple, le grand pont là, à Constantine, on nous disait « marchez au milieu ». Ne marchez pas le long du parapet. Il est arrivé qu'un type vienne et puis vous fasse tomber. J'étais avec un capitaine arabe, le capitaine Benchir, arabe, mais officier français. Et on avait un sous-officier d'une bêtise crasse qui dit « Voyez, mon capitaine, moi j'étais là quand il y a eu l'insurrection, on est allé au bain ». Et on a pris la mitraillette et hop ! Dire cela à un capitaine arabe français était d'une bêtise aveugle. Et bon, Benchir lui a simplement dit « Eh ben, ne cherchez pas ailleurs. Pourquoi nous en sommes là ?»
Georges Niva, est-ce que vous repensez souvent à votre jeunesse ou est-ce qu'elle semble loin de vous ?
Non, elle n'est pas loin du tout. Elle n'est pas loin. Au total, j'en suis très content. C'était une jeunesse heureuse. Malgré la guerre, malgré les attentes après les attentats, peut-être j'étais un peu inconscient, mais non, c'était une enfance quand même heureuse.
Merci Georges Niva, et à demain où nous mettrons le cap sur l'Est et l'hypnotique Russie.
À tout le monde.
C'était À Voix Nue avec Georges Niva, à la réalisation Nathalie Battus. Prise de son Corentin Bailly, chargé de programme À Voix Nue, Daphné Abgral. Une série d'Ulysse Manès, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.